à votre santé. 231e émission de l'association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis de RVM. Nous voilà aujourd'hui 4, 5 même avec Fred dans le studio pour une émission un petit peu spéciale. Alors toujours les conditions pas optimum, vous le savez, nous n'avons pas encore emménagé dans les nouveaux locaux, mais quand même. Donc nous avons un invité, monsieur
Bernard Triolet,
qui est de son métier
chirurgien dentiste en retraite maintenant.
En retraite.
Merci. Et puis
Daniel Cléau, vice-président de l'association. Bonjour aux amis du 93.7.
Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur. Vous nous connaissez. Alors, notre émission, on vous dit d'avance qu'il y aura deux volets avec cette rencontre avec monsieur Triolet. Un volet, on va dire, de proximité sur son métier, sa pratique, et un volet plus général sur l'ordre des médecins, c'est-à-dire des chirurgiens dentistes, pardon, qui en fait nous permettent de comprendre le fonctionnement du système de soins dentaires. Alors, monsieur Triolet, dites-nous un petit peu. Vous avez commencé au bout de combien d'années d'études?
Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Compiègne, au lycée Pierre Dailly. Mmh. J'ai commencé par l'école primaire rue d'Ulm. Et ensuite, au lycée Pierre Dailly, boulevard des États-Unis, j'ai passé mon baccalauréat en 75. Ensuite, je suis parti à Reims faire la première année de médecine, ce qu'on appelait avant le PCM1, qui, à la fin de la... Il y a un concours, et donc ce concours permet d'avoir, en fonction du classement, soit accès aux études médicales ou aux études de chirurgie dentaire. J'ai donc pris l'option chirurgie dentaire, tout simplement parce que mon frère l'avait fait auparavant, et quand il revenait pendant les week-ends, il revenait avec sa trousse à outils, et c'est ça qui m'a un petit peu incité à prendre cette direction-là. Bon, dès mon plus jeune âge, de toute façon, je voulais faire une carrière médicale. Donc, ça tombait bien. Donc, j'ai fait mes études à Reims. J'ai été diplômé en 84. En sortant de la faculté, j'ai fait une collaboration chez un chirurgien dentiste à Gouvieux. Et au mois de novembre, j'ai rencontré une amie qui était chirurgien dentiste à Ribécourt, qui envisageait de prendre sa retraite. Et elle m'a proposé de racheter son cabinet. Donc je me suis installé en 85 dans un petit cabinet au départ, puisque le cabinet était dans la maison d'habitation. Et au bout de quelques années, j'ai réussi à trouver un autre local où j'ai transféré mon cabinet. J'en ai fait un cabinet avec deux fauteuils et j'ai pris un collaborateur avec lequel je me suis associé au bout de quelques mois. Donc voilà un peu mon parcours initial au niveau professionnel.
Donc vous êtes un praticien de l'Oise.
Tout à fait, je suis revenu à mes origines, né à Compiègne, donc
c'est vrai.
C'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être pas évident de revenir dans l'Oise parce qu'il y avait déjà pas mal de praticiens. Si je me souviens bien, à Compiègne, il y en avait plus de 50 dans les années 80.
Ah oui, en effet.
Il n'y en a plus que 30 maintenant.
Ah.
Au détriment aussi, je dirais qu'il y a quand même eu l'ouverture de cabinets dentaires dans les petites villes aux alentours de Compiègne. Hein. Donc autant, si je prends l'exemple de Ribécourt, si vous voulez, quand moi j'ai racheté le cabinet, nous étions deux. Nous sommes arrivés jusque 7 en 95-96. Après, bon, il y a eu des départs, il y a eu donc, si vous voulez, la démographie a énormément changé au niveau de la région. Hein. Bon, à Choisy-au-Bac, il y avait un seul praticien, donc à Tichy, il n'y en avait pas. Donc, si vous voulez, il y a quand même une diversification des cabinets dentaires qui se sont installés. Mmh. Un autre exemple, c'est la Croix-Saint-Ouen. Ils étaient 3 à l'époque, ils sont 13 maintenant.
Donc il y a eu vraiment une expansion qui était liée à quoi? Est-ce que, parce qu'on dit qu'au niveau des médecins généralistes, avec le vieillissement de la population, avec de nouvelles pathologies, ça nécessitait plus de médecins, alors que ça n'a pas du tout suivi au niveau de la formation, c'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau des soins dentaires, est-ce qu'il y avait quelque chose d'analogue ou les gens se soignaient davantage ?
Déjà, je pense que les gens se soignaient davantage. Il y a aussi une évolution dans notre pratique. Parce que donc, déjà, il y a toujours la peur du dentiste. Ça, c'est quelque chose qui est irrémédiable. Donc, et donc, je pense que l'évolution des techniques, il y a aussi l'approche du patient qui a énormément changé dans notre profession, ce qui fait qu'avec les techniques d'anesthésie, il y a aussi une autre méthode, c'est l'hypnose, dont on parle de plus en plus et qui marche très très bien. C'est un système, une pratique. Donc, il faut que le praticien suive une formation spécifique pour pouvoir utiliser cette technique-là. Bon, il y a une autre technique qu'on appelle le méopa. Bon, c'est un peu plus particulier, là, c'est l'utilisation d'un gaz pour pas endormir, mais pour mettre le patient dans un état second. Donc ça, c'est plus spécifique. Mais surtout, je pense que, si vous voulez, il y a eu une autre approche de la profession. On essaye d'être beaucoup plus, et c'est un devoir, de communiquer avec les patients. On a un devoir d'information qui est essentiel dans la profession. Et l'éclosion des cabinets dentaires, je pense que il a suffi. Bon, si je reprends l'exemple de la Croix-Saint-Ouen, il y avait un praticien qui était installé avec deux autres confrères et il a amené son gendre qui a fait ses études à Reims. Et puis il y a eu ensuite les amis de son gendre. Et puis ça a fait un peu boule de neige. Mmh. Et ce praticien exerce encore un petit peu, mais c'est surtout maintenant son gendre, son fils, sa belle-fille et des amis de ses enfants qui sont à l'origine de l'explosion de ce cabinet.
Deuxième donc, génération, hein.
Donc c'est ça. Ouais. Donc c'est ça qui, alors dans certains domaines, c'était ça. Puis il y a des gens qui préfèrent être dans un milieu semi-rural pour travailler. Moi personnellement, j'ai trouvé ce cabinet à Ribécourt-Drénincourt et ça correspondait plus à mon sentiment, à ma philosophie, si vous voulez, donc d'être proche des gens, que d'être dans une ville un peu anonyme. Mmh. Même si, dans l'Oise, on n'a pas de grande ville, contrairement à Paris ou à Amiens ou des choses comme ceci. Mais je pense que c'est très important d'être à l'écoute du patient et donc d'être proche de
celui-là. Je pense que c'est plus agréable qu'un patient soit détendu plutôt que crispé parce qu'il a peur des soins qu'on va lui faire.
Et ça se retransmet, si vous voulez. C'est plus difficile pour le praticien de travailler sur quelqu'un qui va être dans un état de stress.
C'est certain.
Donc, c'est pour ça que, en plus, on utilise quand même des matériaux, du matériel, je dirais, qui peut être dangereux si on l'utilise mal. Donc, il faut être quand même très, très prudent dans la pratique.
Mais ce que vous dites, ça correspond à une expérience que j'ai, parce qu'effectivement, j'ai dû emmener plusieurs fois ma maman pour des soins dentaires parce qu'elle souffrait. Et en fait, il y avait un panoramique, voilà, une radio, et le dentiste disait, écoutez, je ne vois rien. Alors elle n'était pas contente, parce qu'elle disait, mais moi j'ai mal. Et donc je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Et il me l'a expliqué, la plaque dentaire, les gencives, etc. Et il a donné un traitement par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, d'autres époques, on nous aurait donné peut-être l'ordonnance, voilà, vous ferez ci et ça, et c'est tout. On a eu un dialogue, il a pris le temps de répondre. Voilà,
puis on a aussi des moyens diagnostiques quand même qui sont de plus en plus perfectionnés. Oui. Vous avez cité la radio panoramique. Oui. C'est sûr que par rapport aux premières radios argentiques qu'il fallait développer et fixer après donc dans des produits particuliers, on est passé à des radiographies numériques. Donc, il y a aussi un inconvénient. Autant la radio argentique, dans la mesure où elle était bien centrée avec de bonnes doses d'exposition, c'était un instrument de diagnostic idéal. Autant la radio numérique peut laisser paraître, par exemple, il peut y avoir des artefacts. Donc on a une définition qui est moins précise pour certains points. Mais ça donne une image, surtout global, la radio panoramique, un bilan global. Et c'est très important, surtout maintenant, quand les gens n'hésitent pas à faire des procédures, et on en reparlera peut-être dans le volet du Conseil de l'Ordre, si vous voulez, à partir du moment où, bien souvent, lors de la première consultation, le praticien maintenant fait une radio panoramique, et ça donne une image au temps T0 avant que lui intervienne. Et c'est très important de pouvoir fixer l'état dentaire du patient avant que le praticien intervienne. Parce qu'il faut savoir que s'il y a une succession de praticiens qui interviennent, c'est toujours le dernier qui sera responsable en cas de problème. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où il y a une preuve manifeste, il y a aussi la prise de photos. Maintenant, on fait aussi de plus en plus de photographies de la bouche, même du visage, parce qu'il y a tout un contexte dont il faut tenir compte. Et c'est vrai que c'est très important pour la suite du traitement et surtout pour les rapports qu'il peut y avoir après avec les patients. Donc c'est vrai que l'évolution du matériel a fait que, outre l'efficacité des anesthésiques, donc fait qu'on a quand même de plus en plus un exercice vers l'esthétique que recherche le patient, et on a aussi les moyens de techniques avec tous les implants, bon après il y a les problèmes d'orthodontie aussi, donc, mais c'est vrai que l'évolution de la profession fait que on a quand même franchi un pas, on est plus de simples arracheurs de dents, même si dans certains cas on n'arrache plus, on extrait.
Bon, les mots sont importants.
C'est une terminaison, une terminologie qui est quand même importante. Ouais. On arrache les betteraves et on extrait des dents. Mm-hmm. Mais donc, bon, c'est sûr qu'on extrait des dents dans certains camps de traitement qui nécessitent l'extraction parce que bon, la dent est irrécupérable et tout. Donc là, on passe après à des problèmes d'implants. Bon, on fait toujours des prothèses amovibles. Parce que ça restera malgré tout une des solutions, parce que financièrement, c'est quand même celle qui revient le mieux, le moins cher. Mmh. Mais c'est sûr que l'implantologie a pris un énorme essor dans la thérapeutique qui s'offre à nous maintenant, parce que c'est un confort indéniable par rapport à une prothèse amovible. Mais bon... Comme je vous disais, il y a quand même un problème financier qui est très très important dans l'approche de cette thérapeutique.
Est-ce que vous avez un numerus clausus dans votre profession en fac?
Tout à fait.
Est-ce que ça existe aussi?
Voilà. Tout à fait. Alors justement, la profession s'est battue depuis de nombreuses années pour qu'il y ait une faculté à Amiens. Et donc depuis septembre 2023, il y a l'UFR, l'unité de... C'est ce qu'on appelait les facultés dentaires. Donc, il y a une ouverture d'une faculté dentaire à Amiens depuis l'année dernière, où il y a eu 20 étudiants qui sont arrivés en première année. On va parler de deuxième année dentaire, puisqu'il y a toujours cette première année de médecine, le tronc commun.
Oui.
Et donc, cette première promotion va donc avoir 5 ans d'études sur place. Alors qu'avant, les étudiants qui faisaient première année de médecine à Amiens étaient envoyés soit à Reims, soit à Lille. Mmh. Alors moi, pourquoi j'ai fait Reims tout de suite dans les années 75, c'est que le programme d'anatomie était adapté à la chirurgie dentaire. Alors qu'à l'époque, les étudiants qui étaient en première année de médecine à Amiens, c'était au niveau anatomie tête et tronc et membres, alors que nous à Reims, c'était tête et cou. Et ce qui fait que d'Amiens, ils étaient envoyés à Lille ou Marseille. Ils étaient obligés de reprendre le programme d'anatomie. Donc, c'était aussi
préparé dès le départ.
Ouais. Voilà. Donc, pour en revenir à la faculté d'Amiens, donc l'année dernière, il y avait 20 étudiants en première année. Cette année, ils vont être 26. Mm-hmm. À Reims, ils étaient entre 80 et 90 par promotion. Donc là, j'étais à la faculté la semaine dernière, le nombre va diminuer parce qu'ils ont enlevé les étudiants qui venaient d'Amiens. Alors, il y a aussi, malgré tout, il y a un gros problème au niveau des facultés, c'est le recrutement des enseignants.
Oui, c'est ça.
C'est ça, parce qu'ils ont changé un petit peu les modalités, justement, pour que les enseignants puissent encadrer les étudiants. Et c'est de plus en plus draconien, ce qui fait que nous, à mon époque, on avait des attachés, c'était des gens du terrain, des praticiens, qui consacraient une demi-journée La faculté à encadrer des étudiants, à apporter leur savoir-faire. Alors maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir affaire à des praticiens libéraux pour encadrer les étudiants parce que ils ont changé un petit peu la donne. Et ce qui fait que c'est le gros problème qui a été soulevé la semaine dernière à Amiens.
Et peut-être en plus des locaux, en plus de trouver des enseignants, il faut trouver des locaux. Alors, enfin, je sais pas.
Les locaux ont été trouvés dans la mesure où on a été accueillis. Ouais. D'accord. La faculté dentaire a été accueillie dans les locaux de l'ancien hôpital.
D'accord, de Reims. D'accord.
Et puis, alors à Reims, ils ont un superbe centre de clinique dentaire et de faculté maintenant. L'ancienne faculté où j'ai fait mes études est tombée en ruine, mais presque. Donc, et donc à Amiens. La première année, les étudiants ont été accueillis à l'université rue des Louvets, mais ils auront des locaux propres à eux, avec salle de TP, avec des salles de simulation, du matériel très perfectionné, et un centre de soins avec des fauteuils. Et donc, les étudiants, donc les années d'études, il y a 5 années d'études après la première année, et la dernière année d'études, c'est une année de stage et une année de pratique. Déjà en quatrième année, ils sont déjà dans les centres de soins. Au fur et à mesure, ça évolue. Et en sixième année, ils ont un stage actif à faire à l'extérieur, chez un praticien libéral. Et donc, cette formation d'étudiants à Amiens, dans 3 ans, 3-4 ans, il y aura des étudiants qui viendront dans des hôpitaux périphériques, entre autres à Compiègne, Beauvais,
D'accord, pour leur année pratique.
Pour leur année pratique.
Alors, c'est très bien, puisqu'on passe à la pratique, on a quand même une question. Vous savez qu'on a du mal à trouver un dentiste attitré, si j'ose dire. Donc, avec tout ce que vous dites sur les étudiants, il semblerait qu'il y ait quand même des lieux d'études pour les étudiants. C'est pour ça que Daniel a posé la question du numerus clausus. Est-ce que par rapport aux besoins, c'est proportionné, est-ce que c'est étudié,
c'est pas suffisant.
Qui se passe, c'est, alors, pas, suffisant. C'est pas suffisant, ah, donc et, là aussi, donc c'est le nombre de places en
et
études.
Donc ce qui fait, et là la profession s'est longtemps battue, mais c'est un problème financier essentiellement au niveau des ministères, c'est que avec le baby boom, ils savaient très bien qu'à une certaine période, il allait y avoir un problème de démographie, une disparition de mise en retraite des praticiens qui, invariablement, il y a un autre aussi phénomène qui est quand même très, très important, c'est la féminisation de la profession. Et donc, à la réunion à laquelle j'ai assisté la semaine dernière à la faculté de Reims, il y avait pratiquement 70% de femmes. Alors qu'à mon époque, c'était l'inverse.
Comme donc, en médecine.
Donc, c'est ça aussi qui fait que l'offre de soins a tendance à diminuer, parce que les femmes travaillent moins, malgré tout, et donc ce qui fait que, y a, en plus, la population augmente, et donc, si on prend uniquement un chiffre dans l'Oise, au niveau démographie, on est à peu près à 35 praticiens pour 100 000 habitants, la moyenne nationale est à 63.
Oh, en effet, nous ne sommes pas bien servis, malheureusement.
Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très grave. On a je dirais une chance, mais bon, c'est qu'à Beauvais, on a l'apport avec l'aéroport de Beauvais-Tillet, on a l'arrivée de praticiens qui viennent de l'étranger. Espagnol, voilà. Portugais.
Merci les immigrés qui viennent nous soigner, merci. Eh bien, on vous remercie, monsieur Triolet. Merci. On sait qu'on n'a pas terminé le sujet avec vous, qu'on va le réaborder dans une prochaine émission. En particulier, on parlera peut-être de la question financière du coût des soins dentaires.
Merci.
On vous dit donc, chers amis auditeurs, auditrices, vous pouvez nous écouter le samedi à 10h30, mardi 13h, jeudi 16h, et bien entendu ensuite en podcast. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.